France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, je suis déjà dans mon bistrot, où j'attends pour l'apéro Manon Bril. Elle est historienne, elle a fait une thèse très pointue, et aujourd'hui elle se produit sur scène dans un spectacle d'humour et d'histoire, 300 000 ans. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube, C'est une autre histoire, gros succès. Je l'attends. Ah, la voilà, attendez, elle arrive. Bienvenue Manon Bril.
Merci pour l'accueil.
Mais bienvenue dans mon bistrot. Qu'est-ce que fait Manon Bril le samedi soir, généralement?
Oh, le samedi soir, elle boit des coups, malheureusement, au lieu de se reposer après ses spectacles.
Ouais. Ça boit des coups et ça boit... Pas d'enfant, vie sociale. C'est un point de départ pour cette conversation, allons-y.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Manon Bril, vous êtes donc historienne, vous avez soutenu une thèse sur l'appropriation de la figure d'Athéna au XIXe siècle. Et alors aujourd'hui, vous faites du stand-up, il y a des blagues d'historiens et d'historiennes.
Oui, malheureusement.
Dans le milieu académique.
Il y a des blagues niches qui font rire que les historiens, mais du style...
Ah oui, vas-y.
Moi, par exemple, j'ai travaillé sur l'Antiquité, mais au 19e siècle. Donc, j'ai un pied dans les sciences de l'Antiquité et un pied dans l'histoire contemporaine. En sciences de l'Antiquité, on dit que les gens d'histoire contemporaine, c'est des journalistes parce que c'est trop le présent. Qu'est-ce que c'est marrant.
Moi, ça me plaît.
Oh, blague d'initié. Voilà, par exemple.
Ah, j'aime bien l'idée. Mais ça doit être pris comment? Un peu.
Oui, c'est un peu dénigrant, bien sûr.
Dénigrant,
un peu,
oh,
vous, c'est trop récent. Et à l'inverse, évidemment, les gens de sens d'antiquité, c'est des vieux poussiéreux qui ont fait latin et grec.
On est bien sur les clichés dans le
Mais on est tous d'accord pour dire que les chiants, c'est les médiévistes. Les médiévistes au milieu, ils sont vraiment. Alors, ouais, c'est le summum. Le Moyen-Âge.
Michel Zinc appréciera.
C'est boring. Non, mais bien sûr, je fais des blagues avec ça, bien sûr. Mais le Moyen-Âge, c'est velu. Puis non, mais il y a aussi un peu une élite médiévale. Il y a un côté. J'ai fait latin, mais c'est le latin médiéval, texte ancien, blablabli. C'est un peu velu, ouais. Il y a des ambiances, quoi, de couleurs différentes.
Mais quoi, plus l'époque est ancienne, plus il y a une forme de mérite.
Alors, pas de mérite, mais il y a un peu des formations qui font que. Donc, entre les sciences d'antiquité où on fait latin grec et les médiévistes qui font aussi du latin et des textes anciens, etc., c'est un peu des gens qui peuvent être passés par des moules un peu plus académiques et old school, mais ils sont pas du tout forcément tous comme ça. Mais surtout, les plus grosses rivalités, c'est entre historiens et géographes, par exemple. Parce que les géographes, c'est. Pour nous, c'est des routes qui. Compte des cailloux dans la montagne et eux ils nous voient comme des vieux chiants qui trient des papiers, quoi, ce qui est pas très faux.
Ah, je savais pas qu'il y avait
archéologues, c'est ceux qui mettent la main dans la terre, qui boivent des bières et qui savent mettre des coups de pioche, alors que nous on étudie des papiers. Je caricature, mais c'est un peu salé.
Ah oui,
voilà.
Donc ça, c'est les clichés qui ont cours dans le milieu académique.
Ouais, dans les couloirs des
mais quoi, qui sont un peu vérifiés ou pas?
Je pense que chaque cliché peut avoir son exemplaire, son humain de vérification, mais son contre-exemple aussi, bien sûr, d'habitude.
Bien sûr, bien sûr. Manon Bril, vous avez documenté la construction de votre spectacle 300 000 ans dans un blog vidéo. Hein. Et au moment de monter votre spectacle, vous expliquez. J'ai mis longtemps à trouver la première phrase.
Oui,
avec quoi je vais rentrer sur scène et mon premier contact. Et vous avez utilisé une méthode. Je voudrais que vous nous racontiez ça.
En fait, en gros, comme l'ouverture de spectacle, c'est hyper important parce que c'est la rencontre avec le public. Donc, il y a une partie du public qui vient, qui me connaît déjà, mais il y a aussi les nouveaux, les gens à convaincre, etc. Et c'est quand même, ça donne le ton tout de suite. Et en même temps, en tant qu'artiste, bon, maintenant je suis installée, ça va, mais c'est la première phrase, donc c'est le moment où on est stressé, où on a la pression, donc il faut se mettre à l'aise. Et souvent, on dit dans le stand-up qu'il faut ouvrir avec, on dit c'est un opener, donc c'est un peu une entrée un peu forte pour emporter les gens tout de suite avec une très bonne blague ou un truc comme ça et tout. C'est aussi quelque chose qui se travaille beaucoup en comedy club, parce qu'en comedy club on a 5 minutes, donc il faut tout de suite se présenter, convaincre le public et on n'a pas beaucoup de temps pour rester. Donc voilà, il faut trouver son opener, comme on dit. Et moi j'ai eu du mal à le trouver parce qu'en gros, l'ouverture du spectacle c'est sur le fait que dans l'Antiquité c'est très mal vu d'avoir un gros pénis. C'est pour ça que les statues ont des petits zizi et tout. Et donc au début j'arrivais en insultant le public, en les traitant de petites bites. que je fais toujours, mais en fait j'ai mis du temps à trouver la façon de le dire pour que ça fasse pas je vous rentre dedans et je vous insulte. En fait je veux vous faire comprendre que c'est un truc mignon et affectueux, parce que petite bite c'est un compliment dans l'antiquité, et ensuite je peux expliquer et tout, ça fait un contraste.
Mais ça, comment vous en êtes rendu compte, comment vous l'avez trouvé?
Pour trouver ce truc là, j'avais cette entrée qui me tracassait pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver la bonne façon de la tourner, tout simplement. Je voulais cette blague mais je trouvais pas la bonne façon de la tourner, et du coup j'en ai parlé à ma psy qui je lui disais, en fait en gros je voulais un peu travailler avec le MDR, l'angoisse d'avant de monter sur scène, qui était très forte et tout.
C'est quoi l'EMDR ?
Alors l'EMDR, c'est le fait de... C'est une technique, une méthode pour soigner normalement plutôt les gros traumatismes, mais ça peut être aussi les situations d'anxiété, etc. Bref, j'en ai fait beaucoup pour traiter des problèmes personnels, et une fois qu'on a traité ces problèmes personnels-là, elle m'a dit, on peut aussi de temps en temps, avec une séance plus courte ou quoi, vous aider à apaiser certaines situations de la vie courante ou tout, ça peut aussi permettre ça. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas travailler un petit peu le pré-spectacle, vraiment genre les 10 minutes derrière le rideau avant que ça commence. Au début ça me mettait dans un état où j'avais envie de faire demi-tour en courant, d'aller me coucher, de pas y aller. J'étais là, mais pourquoi je fais ça, alors que évidemment après on a juste envie de recommencer. Et ça m'a fait transformer l'état anxieux que j'avais en un truc de oh oui, je suis trop contente de les voir, je suis trop excitée, etc.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Mais oui, on venait de parler de psy. Manon Bril, c'est pas votre vrai nom?
Non, en effet, c'est un...
Il y a un jeu de mots, Manon Bril.
Très subtil.
Est-ce qu'on peut en parler d'un point de vue psy?
Alors en fait, l'histoire, c'est que je l'ai depuis très longtemps, c'est quand j'étais prof des écoles il y a des années, j'avais ouvert un Facebook et je voulais pas que les parents d'élèves me retrouvent. Je voulais mettre un pseudo, et comme Facebook, c'est nombriliste, voilà, j'avais choisi Manombril par autodérision. Après, c'est resté, et quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me suis dit pareil, des années après, je vais mettre Manombril, qui était un pseudo que mes potes utilisaient du coup via Facebook, parce que comme ça, les universitaires vont pas trouver ma chaîne YouTube, et mes vidéos seront référencées à Manombril, et mes publications universitaires à Manon Champier. Et en fait, ils ont trouvé très vite, et maintenant, voilà, c'est sur mon Wikipédia, c'est écrit et tout. Mais c'était un peu par crainte de comment ça va être reçu, pour faire un peu un autre avatar de c'est autre chose et tout. Mais voilà, et en fait j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui ne calculent pas, donc ça me fait rire quand des émissions très sérieuses me reçoivent et disent bonjour, on accueille Manon Bril, et qu'ils n'entendent pas le pseudo.
C'est très drôle.
C'est drôle.
C'est vrai. Alors vous avez un petit peu amorcé quelques points de votre parcours professeur des écoles, ou ce côté mi-académique, mi-trublionne. Alors on va y aller, vous êtes née à Pau.
Ouais, tout à fait.
C'est là que vous avez grandi aussi?
Ouais, jusqu'à mes 18 ans, ouais. Mm-hmm. Cette belle ville, non.
Non, c'est
super.
Vous me conseillez Pau?
Pas tant, enfin c'est plus que en tant que jeune j'ai eu envie de partir vite. Par contre je vous conseille de ouf pour la montagne et la mer qui sont juste à côté. Pas pour François Bayrou.
J'allais vous demander, oui, quelle trace il va laisser dans l'histoire François Bayrou?
Moi pendant très longtemps quand j'étais jeune c'était pas Bayrou, hein, c'était mairie de gauche, c'était pendant très longtemps socialiste et tout, et il se présentait tout le temps, et c'était un peu le guignol, on se disait, il y avait littéralement les guignols qui se foutaient de ta gueule.
Ah oui.
On se disait jamais de la vie.
Ce qu'il a fait à la présidentielle, il l'a fait à Pau.
Ça fait pas si longtemps, ça fait 10 ans qu'il est à Pau, mais moi toute mon enfance et jeunesse, c'était mère socialiste.
Ouais. Vous avez un frangin, on l'apprend dans le spectacle.
J'en ai plusieurs. Ouais,
vous
carrément.
Avez plusieurs,
ouais.
Alors il y en a un dont vous parlez sur scène. Pourquoi vous le droppez sur scène comme ça? Pourquoi vous l'affichez sur scène?
Parce qu'il est chaud? Ou celui dans école de commerce?
Ouais.
Ok, il y a les deux.
Il y en a deux.
C'est pas le même frère. Alors j'ai un frère qui est chaud. Je fais des petites blagues sur la calvitie, mais en gros, j'ouvre en disant que les chercheurs à l'université, c'est pour dire que c'est beaucoup des vieux gars blancs, donc ils sont chauves. C'est pas pour critiquer la calvitie, je dis j'adore la calvitie, j'adore les chauves, je n'ai rien contre eux, mon frère est chauve. Et j'adore leur culture, leur cuisine, leur musique, Etchebest, Phil Collins, c'est tout. Ils sont super les chauves, on les adore. Ils donnent tant alors qu'ils ont si peu de cheveux. Voilà, je fais une petite blague comme ça. Et ça c'est pour mon frère Tom qui est chauve et mort de rire à chaque fois que je dis ça. Et mon autre frère Pablo et tout, qui a fait école de commerce. En fait en vrai, on est 6 enfants d'une famille recomposée, et il y a une rêve pour tous mes frères et sœurs dans le spectacle et tout. Donc là c'était une façon de lui faire un petit coucou.
Ah, vous faites allusion à chacun?
Ouais, par exemple je dis j'ai une sœur qui s'appelle Prune, blablabli. Il y en a d'autres où il n'y a pas directement leur nom, mais il y a une
vous
rêve pour eux.
Vous recomposez la famille sur scène.
Ça, exactement. Ah, oui. Et j'ai un frère qui s'appelle Jordan. Et comme je parle de Jordan Bardella, je lui ai dit, ça t'ennuie pas si j'utilise ton prénom pour parler de lui? Il me fait, non, t'inquiète, ce sera ma dédicace.
Il y a un équilibre, vous parlez de chacun. Que font votre papa et votre maman?
Alors mon père, il était universitaire aussi. Lui, il était prof de physique électronique, jamais trop compris, mais il faisait des décharges dans des laboratoires, en gros.
Vous n'avez jamais trop compris?
Ouais, c'est un peu technique. Non, si, il étudie les transformations de l'énergie, je crois, un truc comme ça. Mathieu dit, papa, il fait des éclairs dans son labo. Bon.
Il fait des éclairs dans son labo.
Ouais, stylé.
Et voilà. C'est pas mal à raconter dans la cour d'école.
Ouais, c'est cool. Ah ouais. Quand on était petits, il nous faisait faire des petits circuits électriques. Voilà, c'était fun. Mais maintenant, il est à la retraite et il court toutes les montagnes du monde.
Uh-huh.
Et Feu, ma maman, travaillait dans le social et s'occupait de l'accueil d'hébergement de personnes qui sont à la rue, tout simplement. Voilà.
Donc cette fibre sociale de
la fibre sociale, ouais. Bon, mes deux parents, ils sont très militants. Mon père, écolo avant l'heure, before it was cool. Et ma mère, ouais, très sociale, ouais. Etc. Donc oui, ça me vient de là, ouais, clairement.
Manon Bril, vous avez fait donc une thèse et ouais. Vous faites des blagues. Vous étiez plutôt première de la classe ou plutôt cancre alors ?
Ben, j'étais plutôt bonne assez longtemps, mais en effet, le bac S, parce que quand on ne sait pas quoi faire et qu'on est bonne, on nous met en S à l'époque. Et le bac S, ben, c'était pas trop ma thèse de thé, les sciences dures finalement. Et donc, je me suis retrouvée en prépa littéraire avec deux profs d'histoire incroyables à Montaigne, à Bordeaux. Et un prof d'histoire de l'Antiquité, un prof d'histoire contemporaine. Il n'y a pas de secret. Et voilà, ils m'ont marqué de ouf. Et après, je suis partie en histoire. J'ai fait petit crochet prof des écoles quelques années, mais j'ai repris mes études et j'ai fait master d'histoire et j'ai fait un sujet qui regroupait histoire de l'Antiquité et histoire contemporaine.
Tout ça est très cohérent, Manon.
Oui, tout à fait.
Ah oui, donc ce goût de l'histoire vous vient de professeur.
De super professeur passionnant en prépa.
Et le goût de l'humour, alors ? Est-ce qu'on rigolait à la maison ? Vous avez des humoristes de prédilection ?
À la maison, on regardait Coluche, des choses comme ça, plutôt. Comme tous les jeunes de mon âge, j'ai regardé plutôt les nuls. Mais par contre, j'ai fait du théâtre assez vite, enfant à l'école et tout, j'aimais trop. Quand j'ai été étudiante, j'ai fait du théâtre d'impro pendant une dizaine d'années à Toulouse dans une troupe en amateur et tout, mais j'aimais trop.
À 10 ans quand même, hein ?
Pendant une dizaine d'années, ouais, en vrai, relativement. Enfin, il y a des membres de la troupe qui sont des improvisateurs professionnels et reconnus et tout, c'est la troupe des acides et tout, ils sont super. Mais donc, j'ai connu les blagues dans les caves, dans les bars. Ça, j'ai fait longtemps, pendant toutes mes années d'études à Toulouse. Et quand je suis arrivée à Paris en 2018, je n'avais pas recherché de troupe parce que je n'avais pas trop le temps. Et j'avoue que ça m'avait manqué pendant tout ce temps et tout. De temps en temps, avec la chaîne YouTube, j'étais invitée à faire des interventions plutôt type conférence ou TEDx. Et j'aimais bien mettre des blagues dedans, mais ce n'était pas du stand-up, bien sûr. C'était j'explique un truc, il y a une petite vanne, les gens ne s'y attendent pas, c'est marrant. Et ça me procurait beaucoup de plaisir. Et donc, quand il y a presque 3 ans maintenant, il y a beaucoup de gens d'Internet qui sont mis à faire du stand-up. Et que j'ai des copains qui ont ouvert un comedy club, le Random Comedy Club. Ils m'ont dit, tu veux tester ? Et j'ai dit oui, direct. Et voilà, après, je suis tombée dans le truc du stand-up et des comedy clubs, quoi.
Ah, et est-ce que vous avez gardé des 10 ans d'improvisation ? C'est pas rien.
Ouais.
Est-ce que vous avez gardé des réflexes ? Est-ce que ça vous a aidé dans vos interactions, dans la vie, dans votre spectacle ?
Ouais. Ça donne des réflexes scéniques, c'est sûr, parce que déjà, par rapport à quelqu'un qui démarrait totalement et tout, même si c'est très différent stand-up et impro, ça permet le placement du corps, de la voix, regarder le public, ce genre de choses, ça je connais. Et l'impro, c'est quand même souvent jouer des personnages et assez caricaturaux. Et donc ça, c'est un truc qui me fait beaucoup rigoler. Là où le stand-up fait pas trop ça, le stand-up traditionnel, on va dire, c'est plutôt parler soi-même, même si tout le monde joue un peu, mais c'est raconter qui on est, raconter sa vie et parler de là où on est, de qui on est.
Ah oui, vous avez un clown, hein ?
Ouais, clairement.
Que vous avez découvert en faisant de l'impro. Donc.
Oui, c'est ça.
Votre metteur en scène vous a aidé à développer.
Exactement.
Et il est irrésistible.
Merci.
Et quand on pense que vous l'avez dit, été professeur des écoles, vous avez donc enseigné à des enfants. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Oh là là, je retiens que les profs ont beaucoup de mérite. Et que ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais que je leur tire toute ma révérence parce que c'était très dur comme métier. J'ai pas aimé la formation qui était l'UFM à l'époque et tout. Donc c'est pour ça, dès que je me suis mise à travailler, je me suis dit ça va pas me plaire comme métier, il faut tout de suite que je reprenne mes études et j'ai fait un master. Mais par contre, j'ai aimé enseigner une fois que j'étais dans ma classe et tout. Ça se passait très bien avec les enfants, ça se passait moins bien avec les parents.
Aïe.
Les parents, c'était dur, ça dépend des milieux. En fait, en vrai, c'est un peu comme les commentaires sur Internet. Il y a 3 parents chiants, on se rappelle de ceux-là, mais tout le reste est adorable. Mais comme j'étais jeune et que je fais jeune, on m'a beaucoup prise de haut. À la fin de l'année, j'avais souvent des « Ah, bah finalement, ça s'est bien passé ?» Bah oui, bah peut-être avant de m'embêter, voyons si ça se passe bien déjà. Ça, c'était stressant. La sécurité des enfants aussi, ça me stressait beaucoup parce que du coup, c'est une responsabilité de fou de « Ok, on va à la piscine. Est-ce que tout le monde va ressortir en vie de la piscine ?» Ça me stressait énormément. Leur sécurité, psychologique et physique. Donc je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup de poids, ça. Par contre, j'aimais beaucoup être avec eux, enseigner avec les enfants. Ouais. Ça, c'était très chouette, ouais.
Ça a été un peu votre premier public, ces enfants ?
Un peu, parce que mais je leur ai fait faire du théâtre, par contre.
Ah.
Direct. Mais comme j'avais adoré à l'école, je me suis dit, je vais refaire faire à mes classes. Et bah, donc j'ai enseigné que 3 ans, hein. Finalement ça allait assez vite, mais mes 3 classes, on a fait théâtre, j'ai eu des CM2, après j'ai eu des CE2 et après j'ai eu des CP, donc c'était des types de textes différents et tout, bien sûr, avec, c'est pas le même apprentissage, machin, mais c'était trop chouette, j'ai adoré ça et j'ai vu pareil des enfants se révéler là-dedans. Bon, tout le monde aime pas ça ou n'est pas forcément à l'aise pareil, mais l'avantage d'une pièce, c'est qu'on peut faire plein de rôles différents et que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Mais j'ai vu des petits et des petites qui étaient pas forcément très à l'aise en classe ou très fans de l'école et qui là se prenaient leur pied de ouf et c'était trop bien, quoi. Et puis, bon, bien sûr, le spectacle à la fin devant les parents, tout le monde est trop content, les parents ils sont trop contents, les enfants aussi, enfin, bref, c'était vraiment trop.
Manon Bril, vous avez expliqué qu'ensuite vous avez commencé un master d'histoire,
ouais,
parce que vous vouliez vous échapper de ça d'une certaine manière et vous avez la passion de l'histoire. Et ensuite vous vous lancez dans une thèse. Mm-hmm. Alors ça,
ouais.
Ça c'est, il faut choisir de se lancer. Est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on est sûr de soi? Et comment on trouve son sujet?
Alors mon sujet c'était déjà le sujet que j'avais en master. En gros, on a décidé d'approfondir un aspect, mais le sujet de master je l'ai trouvé justement en allant toquer à la porte de, à l'époque, donc Adeline Grand-Clément, qui a été ma directrice de master et de thèse, en disant « Bonjour, en fait, j'aime bien l'Antiquité et le 19e siècle, mais je sais pas quoi choisir. J'aime bien l'histoire des femmes et la mythologie, mais je sais pas quoi choisir. » Elle m'a dit « Vous pouvez tout faire. On va travailler sur une déesse antique réutilisée dans l'histoire contemporaine, et comme ça, vous avez tout réuni. » Je fais « Allez, trop bien. » Elle, en gros, elle est spécialisée dans un laboratoire à Toulouse qui travaille sur la réception de l'Antiquité. C'est le fait d'étudier comment l'Antiquité est reçue dans d'autres périodes de l'histoire, comment elle est réappropriée, déformée volontairement ou non, qu'est-ce que ça dit de l'époque qui la reçoit, qu'est-ce que ça dit de ce qu'ils savent de l'Antiquité à l'époque, etc. Et donc, c'est passionnant. C'est, par exemple, c'est, moi, j'ai travaillé sur comment, plus précisément, la déesse Athéna, elle est utilisée dans les images qui sont produites par ou pour l'État. Donc, tous les décors de monuments publics, les monnaies, les bustes de républiques qui peuvent être, avant que ça soit fixé avec le bonnet phrygien, il y a beaucoup de républiques casquées, habillées en Athéna, etc. Donc, pourquoi avant elle était comme ça, puis avant de devenir vraiment une Marianne, que ça s'impose celle qu'on connaît maintenant. Je travaillais sur tout ça. Et donc, voilà, c'est l'époque, le 19e, où au 18e, 19e, dès qu'on construit des bâtiments pour faire stylé, on met des colonnes en gros, parce que ça fait bien l'Antiquité, ça fait beau, c'est la référence ultime d'histoire de l'art. Mais j'y suis allée en thèse parce que j'ai eu un financement. Et ça, c'est une grande chance. Mm-hmm. Je ne me voyais pas continuer à enseigner et en même temps, parce qu'il y a très peu de financement en sciences humaines, c'est 20% des thèses qui sont financées. Et c'est un contrat doctoral de 3 ans, alors qu'on nous demande de faire des thèses plus longues que ça en histoire. C'est pas pareil dans toutes les disciplines, mais en histoire, c'est un peu mal vu, une thèse qu'en 3 ans. Donc j'ai eu un financement, donc j'ai pu me mettre à dispo de l'éducation nationale et me mettre à temps plein sur la thèse. Mais sinon, je suis pas sûre que ça serait arrivé.
Et aller jusqu'au bout.
Et aller jusqu'au bout.
Qu'est-ce qui vous a fait aller jusqu'au bout, tenir?
Et donc j'ai démarré ma chaîne YouTube pendant la thèse.
Ah, voilà.
Elle s'est mise à prendre tout de suite. D'ailleurs, ça a financé la fin de la thèse parce que, comme je disais, le contrat doctoral, il a duré 3 ans.
Votre chaîne, c'est une autre histoire.
Ouais, la chaîne, c'est une autre histoire, tout à fait. Ouverte donc en 2015, ça fait 10 ans, ça y est. Et donc, le contrat doctoral, il s'arrêtait au bout de 3 ans. Ses financements s'arrêtaient au bout de 3 ans. J'ai fait 5 ans thèse. Donc, les 2 années qui ont suivi, c'est en ouvrant une plateforme de dons participatifs qui s'appelle Tipeee, où les gens pouvaient faire des dons pour soutenir mon travail sur les vidéos. Et en même temps, la fac qui, pour prolonger un peu les financements des contrats doctoraux, trouvaient un peu des tâches à proposer à leurs doctorants, par exemple de vulgarisation, par exemple d'organisation de congrès, etc., etc., pour faire un mi-temps, pour compléter, que les gens puissent aller au bout de leur thèse. Et donc là, ils m'ont proposé de faire des vidéos qui vulgarisaient tous les mois une publication de sciences humaines et sociales pour la chaîne YouTube de l'université, enfin, une chaîne de l'université qui s'appelle Monde Sociaux. Comme ils ont vu que je faisais des vidéos, ils ont dit « Ah ben en fait, on pourrait utiliser ça et tu pourrais en faire pour nous. On te donne un mi-temps pour ça. » Il y avait le complément avec les dons des gens et ça a financé la fin de ma thèse, quoi.
Et donc vous êtes un peu auto-entrepreneuse à ce moment-là.
Ouais, ah oui, bah, littéralement, j'ai fait un statut d'auto-entrepreneur, mais c'était, j'ai bien aimé faire ça. Ouais.
Chaîne YouTube à grand succès, jusqu'à 700 000 abonnés,
ouais.
C'est une autre histoire. Et puis vous remportez aussi un concours organisé par le CNRS, ouais, ma thèse en 180 secondes.
Ça a été le déclic pour lancer la chaîne YouTube.
Voilà.
Alors plus précisément, je précise, j'ai pas gagné le concours, j'ai eu le prix du public à la finale régionale Midi-Pyrénées, donc ça qualifiait pas pour la finale, mais ça voulait dire que la majorité de la salle ce jour-là avait voté pour moi et je me suis dit, ok, il y a peut-être une audience, mais c'est là où j'ai commencé à faire de la vulgarisation sur mes sujets et à me dire, ok, peut-être ça peut intéresser les gens et tout. Ouais.
Et sur YouTube, par quel prisme vous choisissez d'aller chercher l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre chaîne?
Alors,
ils ont tort. Hein.
Bah, venez, venez, vous allez adorer, j'espère. Au début, j'ai fait beaucoup de sujets qui étaient liés à mes recherches parce que je n'avais pas le temps de bosser sur beaucoup d'autres trucs. Donc, c'était beaucoup sur la mythologie et tout. Je faisais ce truc de présenter une figure de l'Antiquité, une déesse ou un dieu, expliquer qui c'est dans l'Antiquité et montrer des réappropriations qu'on en a fait au fil du temps jusqu'à dans la pop culture, jusqu'à dans la publicité aujourd'hui, le cinéma, que sais-je. Donc ça, c'était 100% mon domaine. Mais c'est vrai que quand j'ai eu fini, je me suis dit, bon, je vais pouvoir travailler sur d'autres sujets. Et l'avantage d'être sur YouTube, c'est que c'est moi qui décide de A à Z quel sujet. Donc petit à petit, je suis allée voir d'autres choses, c'est hyper rafraîchissant. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment juste moi qui décide de « Ah, j'ai lu ce truc, ce livre m'a parlé, tel historien, historienne m'envoie ça et je me dis « Ouais, trop bien ». Ça, c'est au gré des écoutes, des lectures. Ou des fois, le public, il me dit « Ah, est-ce que t'as vu passer ça ?»
C'est la liberté.
Ah ouais, c'est la liberté totale. Ça, c'est vraiment génial pour ça, quoi.
Est-ce qu'il arrive que votre chaîne YouTube et certaines vidéos soient utilisées comme support pédagogique ?
Il y a des profs qui me disent qu'ils l'utilisent comme entrée. Alors, c'est évidemment pas des cours, c'est pas conçu pour. Mais par contre, ça fait une petite entrée dans la discipline pour un peu dérider... peut-être les gens qui ont une mauvaise image de l'histoire.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, on prend l'apéro avec Manon Bril, historienne et stand-upeuse aussi. Elle joint à ces deux passions dans son spectacle 300 000 ans. Vous êtes les jeudis et vendredis à l'Européen, c'est à Paris, à 21h30. Et vous êtes aussi en tournée à Pau, Montpellier, Clermont-Ferrand, Besançon, Nantes.
Oui, venez, venez, on rajoute des dates au fur et à mesure en plus, donc n'hésitez pas à checker.
Mais oui, grand succès et je suis allée vous voir sur scène avec beaucoup de bonheur.
Merci.
La porte d'entrée pour évoquer l'histoire, telle que vous l'exposez, c'est souvent, il faut le dire, le cul et les chiottes. Et je me suis dit, est-ce que parler aux tripes, parler à l'humour de ventre, ça fait mieux rentrer les choses dans le cerveau, dans le fond?
Il y a plusieurs passages qui parlent de la sexualité, qui parlent donc des petits pénis, on a dit. Il y a un passage sur le fait qu'on avait des latrines collectives à Rome et qu'on faisait caca en groupe. En fait, c'est des exemples qui ont l'air triviaux, qui le sont, on peut considérer que. Mais moi, je trouve qu'ils sont extrêmement éclairants pour parler de ce dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire des sujets qui... peut-être sont marrants et voilà, c'est marrant les bites, haha et tout, mais en fait qui font prendre un pas de recul sur ce qui nous paraît être extrêmement normé, naturel et inné aujourd'hui. Et non, en fait, dans les codes de virilité, ça n'a pas toujours été considéré qu'il faille avoir un gros pénis et tout, c'était le total inverse il y a 2000 ans. L'exemple du caca, il est gras, mais je trouve qu'il est extrêmement parlant parce qu'en fait, c'est le summum de la pudeur aujourd'hui. C'est le truc qui nous gêne le plus. Moi, la première, je le dis dans le spectacle aussi. Alors qu'avant, on faisait caca en groupe à Rome. Et ça, en fait, je trouve que c'est marrant. On en rigole, mais ça nous laisse un petit truc de oui, bon, ok, les codes sociaux, ça change très vite. Je passe mon temps
c'est
à dire
l'image
ça.
L'image de l'Assemblée nationale.
Mais oui, en groupe.
Aux chiottes, en groupe.
Oh non, oui, mais c'est l'occasion de faire des discussions. Ah, des belles
images. Je vois Laurent Wauquiez, vous voyez.
Quelle horreur. Non, mais en fait, il y a... parce que souvent, on me dit, oh, c'est vulgaire, du coup, nanani. Moi, je trouve que déjà, le summum de la vulgarité, c'est de se penser en droit de décider ce qui est vulgaire ou non. Ensuite, pour moi, ce qui est vulgaire, c'est les insultes, les choses dénigrantes ou violentes ou quoi. Par contre, la sexualité et faire caca, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui devrait pas être si tabou, que je suis ravie de dérider justement. Et si des gens se pensent au-dessus de ça, bah, soit ils se leurrent, soit ils sont totalement prétentieux en fait. Mm-hmm. Et donc c'est eux qui sont vulgaires à mes yeux. Mais du coup, oui, c'est une remarque qu'on me fait souvent parce qu'en plus je suis une femme, donc on vient me dire oh, c'est vulgaire, alors qu'aux gars qui parlent de leur bite, encore une fois en large en travers sur scène, on leur fait pas la remarque comme ça.
Mais ça veut dire que moins ce sera tabou, plus on va se rapprocher, que peut-être un jour. On reprendra des décisions en groupe, en toilettes.
Peut-être. Alors après, pour des raisons d'hygiène, je sais pas. Mais l'idée, c'est juste de dire, on peut se décentrer un peu. En fait, c'est des exemples pour sortir de la matrice, un petit peu, entre guillemets, se dire, ok, c'est... tout ceci est très artificiel. C'est vraiment aléatoire et improbable. Ces codes sociaux, ils changent très vite. Et je dis souvent dans le spectacle, c'était il y a 2000 ans, ça vous paraît peut-être loin, mais notre espèce a 300 000 ans. Donc 2000 ans, c'est hier à l'échelle de l'humanité. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, 300 000 ans. C'est la durée de vie de l'Homo sapiens. Donc ça change très vite et tout. Donc si des trucs nous saoulent, changeons-les, parce que de toute façon, ils changeront. Voilà, c'est ça le... Et j'ai pris plein d'exemples comme ça. Alors souvent, on se rappelle des exemples triviaux, mais je dis à la fin, il y a une heure et demie de spectacle à peu près. Il y a 20-25 minutes de blagues de bites et de caca. Ça veut dire qu'il y a 1h5-10 de blagues pas de bites et de caca. Si vous retenez que celle-là, ça en dit plus long sur vous que sur moi. Voilà.
Effectivement. Vous parlez des biais de la recherche aussi.
Oui. Ouais.
D'ailleurs, vous dites quelque chose dans votre spectacle qui, évidemment, m'a frappée, qui dit déjà choisir les questions qu'on pose.
Oui,
c'est exactement. Déjà un biais.
C'est déjà un biais. Alors ça, c'est pour expliquer que... Parce qu'on nous dit souvent, ah, l'histoire, c'est pas neutre, blablabla. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'aucune science ne l'est. Le fait de choisir un angle de recherche, c'est déjà une subjectivité. Il faut pas confondre subjectivité et malhonnêteté. Ça, vous en aviez parlé un peu avec Chapoutot, mais en gros, c'est impossible de pas être subjectif. Je suis un être humain, je fais des choix, j'ai un regard et tout. Par contre, on doit tout le temps s'efforcer de tendre vers l'objectivité le plus possible. Par contre, la malhonnêteté, c'est faire exprès d'enlever telle partie, faire exprès de transformer tel fait, ça c'est malhonnête. Par contre, la subjectivité, elle est impossible à éviter, mais ce qui est important, c'est de dire d'où on parle pour que ceux d'en face, ils puissent comprendre qui prononce ce discours, avec quel, je sais pas moi, même juste bagage économique, social, culturel et tout, pour comprendre que peut-être il lui manque un angle mort sur tel truc ou quoi. Ça c'est hyper important et c'est plus transparent de dire je suis subjectif, voici d'où je parle, je vous parle de ça, que de faire je suis neutre et objectif. Ça, les gens qui vous disent je suis neutre et objectif, encore une fois, soit ils se leurrent totalement, soit c'est les plus malhonnêtes. Donc au contraire, c'est d'eux qu'il faut se méfier. Il faut se méfier. Et en science dure, ben c'est pareil. En gros, le fait de faire de la recherche, par exemple, au hasard, beaucoup plus sur le corps de l'homme que sur le corps de la femme, au hasard, ben c'est déjà une subjectivité de fou, en fait. Et donc, j'explique que je prends l'exemple d'une tombe qu'on a trouvée.
Il y a le personnage de Patrick le scientifique.
Patrick le scientifique, il se croit neutre et pas biaisé, etc. Donc, ça représente un peu, voilà, c'est une métaphore pour tous ces pontes universitaires qui se pensent au-dessus de tout le monde. Donc, exemple, on trouve un tombeau du côté de Vix, magnifique, tombeau de l'âge de fer et tout. Il y a plein d'objets dans la tombe extrêmement riches et tout. Il y a un char, donc on dit c'est un chef. Et en fait, il y a des gens qui disent, bah, on dirait que c'est un squelette de femme. Non, impossible, impossible. Pendant des années, il y a débat jusqu'à ce que la technologie permette de faire des prélèvements ADN. Et là, on fait, ah, c'est bien une femme. Et là, au lieu de se dire, ok, donc c'est une femme chef, puisqu'on avait dit que c'était une tombe de chef à la base, là, on va chercher plein d'explications de pourquoi il y a une femme dans un tombeau avec autant de trucs, au lieu de se dire, bah, en fait, peut-être c'était différent à ce moment-là et c'était possible qu'il y ait des femmes chefs. Donc on va dire, ah, il y a une pathologie sur son squelette, ah, c'est peut-être une chamane, blablabla. Alors que quand on pensait que c'était un homme, on s'est posé aucune de ces questions. Bah, ça, c'est une forme de biais déjà de, en gros, de sélection de ce qu'on veut traiter ou non et qui fait faire des erreurs, quoi, au final. Mmh.
Et donc, vous questionnez les normes et les injonctions, on l'a bien compris, même au point de marteler des choses. Et il y a une phrase que vous répétez comme un mantra, les traditions sont une illusion.
Oui, je dis ça par rapport à cette idée que tout change tout le temps, rien n'a toujours été comme ça, et donc je donne plein d'exemples à travers le spectacle qui parlent de ça, comme on disait pour le caca, les bites, et pas que des exemples de caca et de bites venaient au spectacle. Mais du coup, l'idée, c'est de dire la tradition, c'est une illusion, changeons ce qui nous saoule parce que de toute façon, ça va changer. C'est pas pour dire on doit rayer toutes les traditions, les éradiquer, parce que les traditions, c'est ce qui nous permet de faire société et de vivre ensemble. Mm-hmm. L'idée, c'est de dire s'il y en a qui nous font souffrir, qui nous oppressent, qui n'ont plus de sens aujourd'hui, on peut les changer parce que de toute façon, elles changeront. Et donc, par exemple, ben, le mariage pour tous. Mm-hmm. Et ainsi de suite.
Quel est le biais de Stéphane Bern, alors ?
Alors, donc je parle de Stéphane Bern dans le spectacle pour évoquer le fait que Stéphane Bern, il est royaliste. C'est pas un secret, hein, vraiment, voilà, il le dit et tout. Et donc, bah, le royalisme, j'explique qu'en France, c'est considéré comme l'extrême droite. Ça veut dire que le mec, il est contre la République, donc il est pour le retour d'un roi de droit divin qu'on n'a pas choisi. C'est quand même extrêmement à droite. Si c'est pas extrême droite, c'est extrêmement à droite, vraiment. Mmh. Et en fait, y a presque personne pour remettre en cause la République, hein, vraiment, genre, même chez le RN et tout, personne dit ça, quoi. C'est vraiment très, très, très conservateur. Et du coup, il en découle une façon de faire d'histoire dans ses émissions, très roman national, comme on dit. Donc, c'est les grands rois, les grandes reines, les grandes batailles. C'est une façon de faire d'histoire très sélective que les historiennes et les historiens font plus depuis le 19e siècle.
Donc, ça n'est plus le récit dominant, alors ça n'est... aujourd'hui ou pas?
Dans la recherche. Mais par contre, Bern, il a une tribune de fou. Mm-hmm. Il est adoré, machin, parce qu'il présente
bien.
Il y a
Laurent Deutsch,
il y a Franck Ferrand, c'est les mêmes. Évidemment qu'il est fort sympathique et qu'il présente très bien et que ça, voilà, c'est, je sais pas comment dire, c'est séduisant. Mais en fait, le discours qu'il y a derrière, mais pareil, les universitaires, ils le disent depuis très longtemps que c'est problématique et tout, mais on les entend pas forcément facilement. Donc voilà, et puis lui, il est en place, quoi. Donc bon, je.
On a essayé de l'inviter, il a jamais. Ça s'est jamais mis. Non, bah, pour dire que.
Après, je suis sûre qu'il serait de banque. bonne compagnie pour l'apéro, j'en doute pas, parce que c'est quelqu'un qui est sympa. Enfin, qui est,
voilà. J'ai envie de le questionner.
Mais le contenu, ben, ça pose question. Après, je dis, il parle pas exclusivement de ça. Il a des équipes plus à gauche que lui, je pense. Donc, il parle aussi, des fois, des petites gens et machin et tout. Je veux juste nuancer un peu. Mais vraiment, c'est quand même du soft power d'extrême droite, à mes yeux. Ou de quelque chose très, 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 très à droite, si je peux pas coller directement cette étiquette. Mais voilà, quoi.
Et encore plus à droite, est-ce que vous êtes allé au Puy du Fou déjà ou pas?
Non, je
jamais.
Peux
vous
pas.
Avez pas. Vous avez pas envie d'y aller?
Non, ça va être douloureux. Par contre, j'ai. Non, par contre, vous pouvez.
Vous pouvez lire. Vous voulez pas qu'on
je peux pas, franchement, je peux pas.
Ah,
mais déjà, si une photo de moi là-bas, c'est genre, c'est impossible, fin de carrière pour moi.
Mais non, vous allez comme observatrice.
Oui, oui, peut-être. Mais
moi,
non,
ça m'intrigue.
Par contre,
de plus en plus, ça m'intrigue.
Il y a un super ouvrage de collectif d'historiennes et d'historiens qui a été fait qui s'appelle Le Puy du Faux et qui, pareil, débunk très bien et tout. Pourquoi c'est. Alors là, ouais, c'est peut-être encore pire que Berne. C'est vraiment une catastrophe de oh, Jeanne d'Arc. Bon bref, c'est parce que le seul historien, je mets des guillemets, des R guillemets que vous ne voyez pas à l'audio, du Puy du Fou, c'est De Villiers lui-même qui a donné ses écrits d'historien, qui est donc pas un historien, et voilà, en mode c'est ça la vérité. Enfin, c'est lui qui fait le contenu de tout le parc, hein, donc il y a pas de vérification scientifique ou quoi, c'est juste sa bonne parole. Par contre, comme ils sont très forts en spectacle, ça a beaucoup de succès. Mais ça, c'est le problème des universitaires, c'est réussir à faire une forme qui plaît au grand public. Et c'est là où on a encore du travail et où j'espère contribuer un peu à ça, mais parce qu'eux, ils sont très forts en grand spectacle, ça on sait. Surtout l'histoire, c'est grandiloquent, c'est waouh, c'est des faucons, c'est machin. Donc oui, je doute pas que ce soit.
Vulgariser n'est pas si facile.
Non, c'est technique, ouais,
ouais
carrément.
Ouais, c'est technique.
Et eux, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Ouais.
Quel lien vous entretenez encore aujourd'hui avec le milieu académique ?
Régulièrement, je travaille avec des historiennes et des historiens qui soit me contactent en me disant hey, « on a écrit ça, est-ce que ça te dirait d'en parler ?» Soit moi, je vais les chercher pour avoir des relectures, pour avoir des infos, pour qu'ils m'aident et tout, ouais, carrément. Une des dernières grosses collabs qu'on a fait, ça commence un petit peu à dater, mais c'était au présidentiel, parce que il y avait un collectif d'historiens et d'historiennes qui avait écrit un petit manifeste pour expliquer comment Zemmour tordait le cou à l'histoire n'importe comment. Ils sont venus me chercher en me disant « est-ce que tu peux en parler ?» et tout, et donc j'ai fait une longue vidéo avec elle et eux en interview aussi pour expliquer point par point. Ils avaient chacun traité un chapitre dans leur spécialité en expliquant « ok, Zemmour dit n'importe quoi avec ça, parce qu'il dit ça et en fait la vérité c'est ça ». C'est une des dernières grosses collabs que j'ai fait avec des universitaires.
Mais donc vous sentez que quand un Zemmour ou d'autres donne une fake news ou une fake un fake fait historique,
c'est une fake old news,
une fake old news qui plance comme ça en quelques secondes. Le travail qui doit être produit derrière par les historiens, les historiennes et ceux qui aident à vulgariser et
c'est primordial.
Considérable.
C'est primordial, mais c'est toujours tellement plus difficile parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent des dingues en sachant très bien qu'ils balancent des dingueries, mais ça fait beaucoup de bruit, machin et tout. Et derrière, il faut beaucoup d'explications pour expliquer. Alors non, en fait, blablabli, beaucoup de travail sérieux pour remettre en contexte. Et eux, ils s'en foutent, ils font des tweets pas possibles. Et en fait, du coup, c'est dur d'avoir le même rythme que le débit de bêtises qu'il raconte. On sait que ça a été théorisé par l'extrême droite, ça, dans la campagne de Trump et tout. Ça a été fait volontairement de flouder l'espace public avec des trucs hallucinants.
C'est théorisé.
C'est vraiment théorisé. Ouais, ouais. Et donc nous, derrière, pour rattraper, on se dit « Attendez, non, c'est long à expliquer, mais en fait, pas du tout, parce que blablabli, et ils font des raccourcis pas possibles. » Et du coup, ils sont forts à ça, ils le savent, hein, c'est volontaire.
Ouais. Hein. Ça fait plus de bruit de casser que de recoller, ça c'est
exactement.
Certain.
Exactement. Okay. Ouais.
D'accord.
Bah, surtout quand on fait un travail sourcé et documenté, quoi. Ce qu'ils font pas, quoi. Donc,
Bah oui, mais vous sourcez, vous.
Bah voilà, tout de suite, ça veut vérifier les sources.
C'est le source, c'est le source, c'est le source.
Eh oui,
maintenant des sources. On sort plus, évidemment. Manon des sources. On l'avait pas faite déjà celle-là, oui.
Jamais.
Là, jamais, évidemment. Manon Bril, vous continuez aussi, vous, à faire des recherches ou pas ? Est-ce qu'il y aura un nouveau thème qui vous.
Alors, pas de la recherche à proprement parler, dans le sens où je produis pas du savoir, mais par contre, je dépouille des publications de mes collègues que j'essaye de traduire pour le grand public. Je travaille aussi avec un co-auteur, un documentaliste, Vincent, qui est super, qui est agrégé en histoire, et je lui dis, des fois c'est moi qui fais les recherches quand j'ai le temps, des fois je lui dis, ok, je veux répondre à cette question, est-ce que tu peux me faire la doc ? Il me fait aider pour ça, parce que c'est ça qui prend le plus de temps dans le type de vidéo que je fais, c'est trouver les infos, faire un gros entonnoir à la fin. Mais voilà. Donc ça dépend des sujets, du temps que j'ai et de à quel point j'ai envie de lire dessus ou non.
La fameuse technique de l'entonnoir de Manon Bril, que vous pouvez retrouver bien sûr donc, dans son spectacle 300 000 ans, les jeudis et vendredis à 21h30 à l'Européen, c'est à Paris, et aussi en tournée dans toute la France. Et en 2026, vous pouvez aller voir toutes les dates de sa tournée. Une dernière question, Manon Bril, est-ce qu'on se quitterait sur une reco, une de vos recommandations, un livre d'histoire que vous auriez envie de partager avec nos éditorices?
En gros, je trouve le meilleur truc, vu que moi ma spécialité c'est la mythologie, le meilleur livre grand public, encore toujours pas détrôné je trouve, pour entrer dans la mythologie, c'est un petit livre qui s'appelle L'univers, les dieux, les hommes, de Jean-Pierre Vernant, qui était et un philosophe et un historien des sciences de l'antiquité et tout. Et en fait, il écrit ses ouvrages universitaires, il était très fort et c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la recherche en sciences de l'antiquité. Mais ce livre-là, il l'a écrit plutôt à destination de ses petits-enfants avec qui il avait des conversations et à qui il racontait les mythes. Mmh. Et franchement, ça se lit tout seul, c'est très agréable, c'est un petit livre. Il reprend un peu les mythes principaux et ça vous fait un petit bagage. Et en même temps, il arrive à y mettre des notions qu'il a théorisées dedans, mais tout en les expliquant bien. Et pas juste faire un espèce de catalogue comme on peut avoir dans les manuels de mythologie qui sont alors Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, elle est née comme ça et blablabli. Dessous, il y a une problématique qui donne un peu l'ampleur de ce que c'est les cultes dans l'Antiquité, et donc c'est très bien fait tout en étant absolument, c'est vraiment fait pour le grand public. Donc L'univers, les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant, je vous recommande, c'est une très bonne entrée dans la mythologie.
Merci Manon Bril.
Merci pour l'invite et bon apéro.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez trouver les précédents épisodes sur l'application Radio France. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Étienne Quenel à la réalisation, Johanna Gabric à la technique, Achille Aclin au mixage et Patricia Miura à la documentation. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20 avec Benjamin Biolay.